Bonsoir à toutes et à tous. Toujours un vrai plaisir de vous retrouver en direct, à la radio, à la télé, sur BFM Business. C'est parti pour Tech & Co, votre rendez-vous dédié à la tech. 2 heures de tech chaque soir du lundi au jeudi. Et je suis ravi d'être là avec vous. Avec au menu ce soir dans Tech & Co, eh bien, plein de bonnes choses. Vous connaissez les néo-banques, les néo-assurances. Est-ce que vous connaissez les néo-syndics? Eh bien, le néo-syndic arrive et on recevra l'un de ses dignes représentants, c'est Bellman, une start-up très intéressante. On évoquera aussi, eh bien, la gamification des salles de sport avec l'exemple concret de Fitness Park qui va mettre des masques de réalité virtuelle dans toutes les salles. Pourquoi faire? On essaiera de comprendre. Et puis, c'est le marché de Noël à Station F avec des startups qui vont vendre les produits qu'elles fabriquent. Et on en recevra deux tout à l'heure qui nous expliqueront un petit peu cette magie de Noël à Station F. Vous le savez, plongé dans Station F dans Tech & Co chaque lundi soir. Voilà, vous savez tout. Le compte Twitter de Tech & Co si vous voulez nous suivre. Sachez que demain, nous serons à Lyon pour un Tech & Co exceptionnel depuis la CCI de Lyon Métropole. Mais d'ici là, bienvenue à Paris, bienvenue dans Tech & Co, c'est parti.
BFM Business et 01 TV présente Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, j'espère que vous avez passé, et c'est ça peut-être le plus important, un excellent week-end. Toute l'actualité du jour, c'est avec Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir. Une actu pas très sympathique, on va voir.
Non, ah, alors j'allais te demander si tu avais passé un bon week-end.
Oui, très bon. Et du coup, je me rattrape avec des mauvaises news.
Tu plonges. Voilà. Et oui, imaginez, vous êtes invité à une réunion Zoom au travail. Comme ça.
Exactement, bon, avec, voilà, avec ça, 900 de vos confrères.
900 de vos confrères, vous dites, pétard, c'est quand même une sacrée grosse réunion.
Belle réunion auquel on va assister.
En plus, il y a le PDG qui est là.
En personne.
Donc vous dites, c'est quand même, personne, c'est cool, quoi.
Grosse annonce qui va être faite.
On se met une belle veste, une belle chemise, etc.
Peut-être une cravate même. Et là, on vous annonce, le PDG arrive devant vous et vous annonce.
Alors, pas tout de suite, il fait quand même un peu durer les choses, etc.
Il dit qu'il a une mauvaise nouvelle à annoncer. Alors, c'est quand même une très grosse entreprise. C'est une société qui s'appelle Better.com. Meilleur.com.
Bon, là, ils portent pas bien leur nom, on va dire.
Non, pas forcément. Better.com, donc, c'est une société qui est spécialisée dans les prêts hypothécaires, qui compte quand même 10 000 salariés, principalement basés aux États-Unis et en Inde. Le patron arrive, il leur explique que le marché est difficile, il a changé, et que donc toutes les personnes qui ont été conviées à la réunion, à savoir 900 personnes sur les 10 000 de la société, eh bien, vont être licenciées avec une décision avec prise d'effet immédiate. Voilà un petit peu le choc qu'ont subi les salariés de cette société Better.com. Donc, ils ont appris comme ça en direct sur Zoom qu'ils allaient être licenciés, qu'ils étaient licenciés au moment où le PDG leur présenter donc son plan de développement de l'entreprise. Et voilà, les 900 qui sont là vont être licenciés. Alors, c'est une scène qui a été filmée par des salariés qui ont été interloqués quand même, par la méthode employée. Alors, le PDG a dit que il avait déjà dû avoir recours à ce type de méthode, qu'il avait eu les larmes aux yeux.
Voilà, il avait fait une première fois et ça avait été très dur émotionnellement pour lui.
Très difficile émotionnellement pour lui. Oui, on peut le comprendre. On n'en doute pas, évidemment. Ça a dû être très difficile émotionnellement pour les salariés qui ont vécu cette décision-là. Alors, c'est pas la première fois qu'on relate ces histoires-là de licenciements sur Zoom, mais à cette échelle-là...
Il y a même des licenciements par SMS.
900 salariés par SMS, évidemment. Mais c'est vrai qu'à cette échelle-là, 900 salariés d'un coup comme ça sur Zoom, c'est vrai qu'on ne l'avait a priori jamais vu, un licenciement de cette ampleur-là. Alors voilà, le patron après s'est justifié des sites américains, notamment TechCrunch, ont essayé de le joindre, mais pourquoi vous y êtes pris comme ça? Est-ce que c'était vraiment, est-ce qu'il y avait vraiment une urgence à licencier toutes ces personnes-là? Le patron, assez cash quand même, il faut l'avouer, a dit que s'il a licencié ces 900 personnes-là, c'est qu'elles n'étaient pas assez productives pour son entreprise. Il expliquait qu'il y avait 250 parmi les 900 salariés qui ne travaillaient que 2 heures par jour.
Oui, parce qu'elles étaient en télétravail.
Voilà, en télétravail. Exactement.
C'était ou des Américains ou des Hindous.
Exactement. Voilà. Donc, ce sont principalement des Américains et des Indiens qui ont été licenciés. Voilà, c'est une très grosse société, Better.com, qui va être introduite en bourse d'ailleurs la semaine prochaine et qui a levé déjà 750 millions de dollars auprès de SoftBank, le grand investisseur japonais.
Voilà, après le télétravail, c'est le télé-licenciement, en quelque sorte. Là, on n'a pas envie de se connecter pour
Non, là, on n'a pas envie d'y aller, cette fois.
Retour en France avec une nouvelle qui n'est pas terrible non plus. Faites attention à votre numéro de carte bancaire. Peut-être est-il en train de circuler sur le dark web.
Exactement, oui. C'est une étude de NordVPN. NordVPN, on connaît bien. Hein, c'est un VPN qui fait notamment beaucoup de publicité sur Internet et sur YouTube. Et c'est un des leaders aujourd'hui des VPN en Europe. Eh bien, ils ont fait une espèce de classement des pays les plus concernés par les vols de cartes bancaires. Et eh bien, cocorico, si on peut dire, un petit cocorico, c'est la France qui arrive en tête, c'est les Français qui se font en Europe le plus voler leurs cartes bancaires sur Internet. Plus de 154 000 cartes bancaires seraient actuellement en vente sur le dark web. Wow. Alors, principalement des cartes Visa. Et le responsable de NordVPN qui dévoile l'étude.
J'ai une Visa.
Moi aussi, j'ai une Visa. Peut-être qu'on court actuellement sur le dark web.
Ouais.
On vérifiera. Donc, 154 000 cartes. Et le patron donc, de NordVPN assure qu'il y en a certainement beaucoup plus. Hein. Ils ont étudié des bases de données, une vingtaine. Et évidemment, il y en a beaucoup plus.
Et donc, tu peux faire ton marché, tu peux acheter ces numéros de carte bancaire comme ça.
Sur le dark web. Alors, une carte bancaire, combien ça coûte si tu veux racheter le numéro?
Oui.
Ça coûte 17 dollars en moyenne. Alors, tu ne peux pas acheter carte bancaire par carte bancaire. Tu vas acheter toute une base de données qui comprend des centaines, voire des milliers de numéros.
Donc, il faut quand même avoir de l'argent.
Donc voilà, ce sont principalement
des réseaux de pirates. Parce qu'on peut imaginer en plus que certaines sont désactivées en fait.
Oui, dans le lot, il y a certainement des désactivées. Voilà, d'où les 17 dollars seulement, hein, si on peut dire. Alors ces cartes bancaires, après, elles vont être utilisées principalement sur des sites pornographiques, sur des sites de paris sportifs. C'est là que les pirates vont rentrer votre numéro de carte et vont jouer, vont faire des paris et vont essayer de gagner ou vont s'inscrire sur des sites en ligne. Donc voilà, il faut faire très attention, rappelle le patron de NordVPN. Alors, il y a de plus en plus de sécurité quand même, les banques. Alors, dans un premier temps, elles ont mis en place le système de vérification par SMS, système qui peut être piraté. Hein. Si on vous pirate votre carte SIM, eh bien, le pirate va pouvoir recevoir le SMS de validation à votre place. Alors, les banques ont mis en place un système de vérification sur l'application. Donc, c'est un niveau de sécurité supplémentaire. Hein. Vous
payez... Oui, parce que là, ça dépend pas de la carte SIM, c'est l'appli qu'on
c'est
a installée,
l'appli
bancaire, il faut rentrer le code de l'appli.
Avec nos propres coordonnées, avec nos propres numéros, c'est généralement de la reconnaissance faciale d'ailleurs. Donc voilà, vous recevez un code et vous devez le valider avec l'application. Bon, même là, les pirates, les hackers arrivent à détourner. Donc voilà, ce que rappelle le VPN, NordVPN qui fait l'étude, c'est de ne jamais enregistrer de carte bancaire sur des sites aussi fiables soient-ils. Voilà, c'est une des seules sécurités aujourd'hui.
Ouais.
Pas se faire voler ses cartes bancaires. 154 000 quand même, au moins 154 000 cartes bancaires qui tournent sur le dark web en France.
Dans l'actualité aussi de la tech aujourd'hui, cette information étonnante. Vous connaissez sans doute ce petit gadget qu'Apple a sorti il y a quelques mois de cela, qui s'appelle l'AirTag. Voilà, c'est une espèce on dirait un jeton de casino, en fait, hein, que vous pouvez accrocher à vos clés, etc. Et qui vous empêche, en fait, de perdre l'objet auquel est rattaché cet AirTag. Eh bien, il y a des petits malins qui ont détourné, en fait, cet AirTag, Frédéric.
Oui, ça se passe au Canada, apparemment. Hein, c'est la police locale, c'est en Ontario. La police s'est aperçue qu'il y avait eu 5 vols de voitures et dénominateur commun de ces 5 vols, c'est que les AirTags d'Apple ont été utilisés pour suivre en fait la voiture. Alors concrètement, le cambrioleur s'approche d'une voiture, voit une personne rentrer, cache un AirTag ou dans le pot d'échappement, le col sous la voiture ou dans une remorque si la voiture en est dotée. Et après, grâce à son iPhone, elle peut suivre à distance où va la voiture. La personne sort de la voiture en arrivant chez elle. Elle rentre pour décharger les courses et hop, le cambrioleur. Rentre dans la voiture et part avec. Voilà. Donc il y a eu 5 cas en quelques semaines seulement, hein, depuis le lancement des AirTags. Enfin, en tout cas, depuis septembre, c'est la police locale, une police locale en Ontario qui s'est aperçue de ça. Et elle a lancé un appel pour savoir si d'autres cas avaient pu être recensés au Canada, aux États-Unis, voire même en Europe. Hein. Voilà. Alors, Apple a répondu et a dit qu'il y avait quand même des sécurités. Théoriquement, si un AirTag vous suit, hein, si y a un AirTag qui vous suit et qui n'est pas relié à votre iPhone, normalement, l'iPhone...
Vous devez recevoir une notification.
Vous devez recevoir une alerte, exactement. Si moi, je suis au volant de ma voiture et qu'il y a un AirTag de quelqu'un d'autre...
Ou même pour t'espionner, par exemple,
pour
savoir
où tu vas, etc. Donc, théoriquement, je dois recevoir une alerte sur mon iPhone en disant « Attention, un AirTag ne vous appartenant pas... »
Vous suit.
Est en train de vous suivre et vous devez le désactiver. Donc voilà, sauf qu'aujourd'hui, pas tout le monde est au fait de ces systèmes d'alerte. Puis il y a les téléphones Android qui ne sont pas forcément équipés avec, qui ne sont pas forcément compatibles avec les AirTags. Donc voilà, il faut se méfier en tout cas, parce que ce type de pratique peut avoir lieu. En tout cas, elles ont déjà eu lieu au Canada, 5 cas depuis le mois de septembre.
Merci beaucoup, Fred, pour toute l'actu tech de ce lundi. On se retrouve tout à l'heure, hein, à 21h d'ailleurs, pour un débriefing de l'actu du lundi. Vous le savez, on débriefe l'actu le jeudi soir et le lundi. On prend une vingtaine de minutes. Ce sera avec toi et Damien Morin tout à l'heure. On reviendra, entre autres, sur ce projet d'Arianespace formidable de lancer ce lanceur qui revient tout seul. Exactement. Un peu à la Elon Musk.
Le SpaceX européen.
Tout à fait. On évoquera aussi les dernières rumeurs concernant Apple avec une année 2022 visiblement très chargée pour Apple. Un article que je vous invite à lire sur 01net.com et puis d'autres gros faits d'actu tout à l'heure à partir de 21h. Merci tout à l'heure, Frédéric. Et puis dans un instant, la suite de Tech & Co avec Bellman. Vous connaissez les néo-assurances, les fintech. Et bien maintenant, on va découvrir les néo-syndics avec mon invité. À tout de suite.
BFM Business et 01TV présente Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Nous sommes là chaque soir, sachez-le, du lundi au jeudi, 20h, 22h, à la radio, à la télé, en direct pour Tech & Co. N'oubliez pas la rediff à partir de 22h sur 01TV, la nouvelle chaîne dédiée à la tech que vous pouvez retrouver sur la plupart des box et sur 01net.com. Mon invité, Antonio Pinto. Bonsoir, Antonio.
Bonsoir, François.
Et on va parler avec vous de syndic de copropriété. Je m'adresse à vous qui nous regardez ou qui nous écoutez. Est-ce que vous êtes, si vous êtes propriétaire, satisfait de votre syndic de copropriété? Souvent, on le constate, hein, moi-même étant propriétaire, on a des relations parfois un peu compliquées avec son syndic de copro. C'est un secteur qui vieillit, qui ne prend pas en marche, en fait, eh bien, toutes les nouveautés technologiques. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, avec Bellman, Antonio Pinto, vous comptez révolutionner, en fait, ce secteur du syndic de copro.
Exactement, et on a déjà un petit peu commencé, puisque on a déjà 400 immeubles sous gestion qui sont aujourd'hui très satisfaits. Mais globalement, oui, le constat, il est là. Il y a plus d'un copropriétaire sur deux qui se dit insatisfait et qui veut changer de syndic de copropriété.
Pourquoi, à votre avis? Pourquoi y a-t-il tous ces mécontentements? Et comment vous arrivez à les corriger, en fait?
Ils sont assez explicites, hein, les copropriétaires. Ils demandent deux choses qui sont quand même globalement très, très bien expliquées. Ils demandent de la réactivité et de la transparence. C'est les deux choses qu'ils demandent depuis, on va dire, une trentaine d'années. Et comment est-ce
vous voulez dire par là qu'on ne les a pas toujours avec les syndics historiques?
Si les gens se plaignent, c'est qu'a priori, il y a un problème. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, donc, le digital peut apporter énormément de solutions là-dessus pour pouvoir être réactif et transparent. Et c'est exactement ce que Bellman a fait. Donc Bellman, c'est un syndic de copropriété créé par deux ingénieurs, donc Jonathan Ratier et moi-même. On était nous-mêmes frustrés par nos syndics de copropriété. Et on a créé quelque part un peu ce syndic de nos rêves qui, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une plateforme qui permet à nos gestionnaires de copropriété, du coup, d'arrêter de perdre du temps sur des activités chronophages sans valeur ajoutée, mais en même temps d'apporter une transparence totale sur tout ce que Bellman fait pour la copropriété au jour le jour.
Alors, c'est rigolo. C'est amusant parce que votre maman était gardienne d'immeuble. Ouais. Et donc, vous avez vécu, en fait, dans cette ambiance, en fait, d'immeubles, de copropriétés, etc. Et vous avez dit, je vais en faire mon métier en créant Bellman. Mais comment peut-on arriver à digitaliser, en fait, ce métier? Parce que c'est ça l'objectif. Alors, jusqu'où on peut le digitaliser? Oui. Parce que l'humain est important, hein, quand il faut faire une visite. Vous n'avez pas encore un robot qui peut visiter un appart ou une copro. Ça, c'est pas possible. Oui. Jusqu'où vous arrivez à digitaliser aujourd'hui les syndics de copro?
On partage exactement ce constat. C'est un métier qui sera jamais entièrement automatisable ni entièrement digitalisable. En revanche, il y a des tonnes de choses qu'on peut faire pour le gestionnaire, que ça soit de la recherche de documents, de la demande d'intervention, de la demande de devis, puis communiquer tout ça au copropriétaire pour qu'il puisse valider un devis en ligne, voter en ligne. Enfin, il y a des tonnes de choses qu'on peut faire pour optimiser tous les petits processus qui finalement coûtent énormément de temps aux gestionnaires de copropriété et qui du coup se retrouvent surchargés par de l'administratif.
Est-ce que vous révolutionnez par exemple les réunions de syndic de copro? Ça existe toujours de la même manière avec vous?
Alors, on les fait de manière beaucoup plus digitale, mais c'est à leur souhait, c'est en fonction de ce qu'ils veulent. La réalité, c'est qu'il y a des conseils syndicaux qui aiment bien se réunir, en fait, de temps en temps, et les assemblées générales de la même manière. Oui, il y en a qui aiment continuer à tenir les assemblées générales en physique. En revanche, on donne des solutions pour ceux qui ne pourraient pas être présents à l'assemblée générale bah, ils vont pouvoir voter en ligne sur la plateforme Bellman, par exemple, ou lorsqu'on veut rencontrer son gestionnaire de copropriété ou valider, par exemple, les comptes de la copropriété, on n'a pas à se déplacer dans l'agence du syndic. On va vraiment pouvoir faire tout ça en ligne.
Alors là, il y a des syndics anciens, en fait, qui s'y mettent hein, petit à petit. Je crois que le Covid aussi a un petit peu accéléré tout ça. Hein. Même les, on va dire, les gros mammouths des syndics de copropriété ouais. bougent un petit peu, essaient de se digitaliser. Il y a aussi le prix qui est souvent pointé du doigt. Est-ce que vous êtes moins cher que les syndics de copro traditionnels ?
Alors, la réalité, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui est pointé du doigt, c'est le manque de transparence
oui,
sur le prix.
Oui.
C'est pas tellement, les gens ne se plaignent pas en disant c'est trop cher, ils se disent bah, on m'a facturé des trucs additionnels, c'est pas normal. Là-dessus, Bellman est complètement transparent, tout comme sur notre gestion. On a un contrat qui est absolument tout inclus, sans petite ligne. Tout est absolument inclus, ce qui fait qu'à la fin d'année, lorsqu'on vous a dit que vous allez payer tant, vous allez vraiment payer tant. Il n'y aura pas de facturation à la vacation, etc., etc.
Donc vous avez quand même des gestionnaires qui travaillent,
ouais.
qui se déplacent, etc., qui sont des vrais gestionnaires de copropriété.
Bellman, c'est vraiment le mélange de la technologie et de l'humain. Donc on a 26 gestionnaires de copropriété aujourd'hui, avec la technologie qui va bien, pour qu'ils puissent se déplacer plus régulièrement, qu'ils puissent rencontrer plus régulièrement leurs conseils syndicaux. Cette plateforme, du coup, automatise plein de choses pour eux pour qu'ils regagnent du temps. Mais l'idée n'est pas du tout de supprimer l'humain, au contraire.
Et donc, l'idée, c'est qu'on a une interface à laquelle on a accès.
Oui.
Où on peut piloter comme ça sa copro et avoir des informations sur les travaux en cours, etc. etc.
Exactement.
En
fait. Je vous donne un exemple très concret. Un des copropriétaires détecte une fuite dans les parties communes.
Il va notifier. Qui arrive assez souvent. Quand
qui arrive assez souvent.
Dans un classique.
Voilà, exactement, surtout là maintenant.
Ouais.
Un copropriétaire va nous notifier. On va créer un dossier sur la plateforme. Vous allez être notifié du fait qu'un copropriétaire nous a prévenu. Vous allez ensuite voir lorsque le gestionnaire a fait une demande d'intervention à un plombier. Puis vous allez voir lorsque le plombier est intervenu avec son rapport d'intervention. Puis après, à la fin, vous allez voir lorsqu'on a réglé la facture qui est liée à cette fuite. Enfin, vraiment, vous allez voir tout le listing.
Il y a tout un suivi de dossier.
Il y a tout le suivi.
Qui paraît normal, mais qui est, c'est vrai, parfois un peu ardu.
Exactement.
Lorsqu'on est dans un syndic de copro traditionnel.
Exactement.
Votre objectif dans les mois, les années qui viennent, c'est de grossir, c'est de proposer encore plus de services.
La première étape, déjà, c'est aujourd'hui, Bellman est un syndic parisien, c'est de devenir un syndic national.
D'accord.
Donc on vient, suite à la levée de fonds de 11 millions d'euros de juillet, on vient d'ouvrir Lyon, Nice et Toulouse, pour lesquels on a ouvert des bureaux là-bas avec trois super gestionnaires, Sophie, Alexandra et Marina, qui du coup sont là-bas. On commence à gagner des immeubles là-bas et puis on va ouvrir le reste de la France dans les prochains mois.
Eh bien, merci beaucoup, Antonio, et bon vent donc à Bellman. Voilà, le syndic de copropriété vit aussi sa transformation grâce à vous.
Merci
François. Antonio. Rappelons que vous êtes le CEO de Bellman. Dans l'actualité aussi, c'est Fitness Park qui a annoncé faire évoluer son concept Fitness Park. Hein. Voilà, ce sont des salles de sport, vous vous abonnez, vous y allez, comme il existe des dizaines de marques qui proposent ce type de service. On va en parler avec Thomas Mendonça, qui est mon invité. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général digital innovation donc de Fitness Park.
C'est ça. Merci.
Et vous voulez le gamifier en fait, le sport en salle.
C'est ça. On veut le digitaliser, pousser l'expérience client grâce au gaming. Et on a tout pour le faire. Fitness Park étant le leader français du marché du fitness.
Combien vous avez de salles aujourd'hui de sport ?
On a plus de 250 salles. On est principalement en français. Le concept a été créé en 2009 et on déploie aujourd'hui en Espagne, au Portugal et très prochainement aussi au Maroc.
Donc aujourd'hui, Fitness Park, c'est pour quelques dizaines d'euros par mois. J'accède donc à vos locaux, aux machines, aux cours, etc., etc.
Exactement.
La nouveauté, c'est que vous allez apporter de la tech dans tout ça. Comment ?
Exactement. On a lancé un gros projet de migration dans le cloud. On a développé nos propres logiciels et fait appel aussi à des partenaires pour créer une véritable infrastructure qui nous permet de digitaliser le monde du fitness. Aujourd'hui, on a une offre digitale chez Fitness Park qui ne se résume pas que à la salle physique, bien que ce soit notre cœur de métier. On est allé un petit peu plus loin avec notamment une application mobile, une plateforme de home training qui s'appelle Home Park, qui propose des cours en live. Tout ça dans le but d'accompagner nos clients avant la salle de sport, pendant la salle de sport et également après la salle de sport pour avoir un accompagnement 360.
Est-ce que vous n'avez pas appris aussi des leçons du Covid on a l'impression que, effectivement, ça a été terrible pour les salles de sport qui se sont retrouvées comme, voilà, comme beaucoup de secteurs fermés. Est-ce que là, vous vous dites pas, bah tiens, en digitalisant tout ça, on ne sait pas ce qui peut arriver demain et personne ne le sait, on le voit encore aujourd'hui. Eh bien, malgré tout, nos clients pourront conserver des abonnements et faire leur sport dehors, avec du coaching ou chez eux.
C'est une très bonne remarque. Je ne vous cache pas qu'on a accéléré la digitalisation avec le démarrage du Covid. On a été un secteur assez touché avec pratiquement un an de fermeture. Malgré tout, on regarde plutôt l'avenir, le positionnement des Français, c'est faire du sport, le être bien. On voit vraiment une accélération, notamment dans la dernière opération de Black Friday qu'on a fait. On a fait un record d'inscription en ligne. Donc on sent qu'il y a quand même une dynamique autour de la prise en main de son corps, de la bonne santé. La salle de sport étant actuellement le médicament le plus efficace pour lutter contre les différentes maladies.
En effet. Alors, donnez-nous quelques exemples justement de cette tech qui peut transformer en fait le sport. Je crois que vous avez créé des avatars 3D. Il y a des casques immersifs. Il y a même des casques VR. Racontez-nous un peu.
C'est ça. On est parti d'un constat. Le constat, c'est motiver nos clients, booster nos adhérents dans l'usage du fitness. On sait qu'une activité ludique, gamifiée, peut pousser jusqu'à 50% l'usage dans le sport. Donc, on l'a testé. On a créé notamment des murs immersifs, des casques de réalité virtuelle pour simuler des combats de boxe. On a également créé un concept qui s'appelle le Burning Park, qui est un cours collectif à haute intensité où on prête une ceinture connectée à chacun de nos clients pour qu'ils puissent mesurer leur rythme cardiaque qui est projeté sur un écran géant. Et en fait, ça permet également la personnalisation de l'entraînement grâce à la data pour booster l'usage et booster la performance de nos adhérents.
C'est-à-dire qu'on peut suivre, on peut monitorer nos efforts physiques. Exactement. Aujourd'hui. Alors chacun peut le faire avec des montres connectées, etc. Voilà, on voit beaucoup aujourd'hui de sportifs qui sont équipés de ce type de choses. Sauf que là, vous êtes proactif, vous le proposez en fait à vos adhérents.
Exactement. On sait que 15% des adhérents viennent avec une montre connectée.
15%.
15%. Du coup, c'est plutôt les adhérents qui vont faire du cardio, qui vont chercher la haute intensité. Et nous, on propose de faire le lien entre cette montre connectée et le parcours sportif pour qu'il soit encore plus poussé et encore plus personnalisé.
Le masque VR au sport, est-ce que c'est pas une fausse bonne idée? Parce que on transpire, ça bouge dans tous les sens. Bon, enfin voilà quoi. C'est pas un peu un effet d'annonce, un masque VR dans une salle de sport?
On a testé le mur immersif, donc c'est en quelque sorte comme si on avait un casque sur la tête, et le casque VR, notamment le Oculus. On se rend compte que pour l'instant, il est encore en R&D. On a besoin d'avoir un casque plus léger, plus fin, plus adapté au monde du sport. Ils sont en train de travailler sur ce type d'évolution. Donc on garde les deux concepts pour le déploiement sur la partie digitale pour l'instant.
Est-ce que vous, avec toute cette technologie, vous ne combattez pas aussi quelque chose de naturel et d'humain? C'est la lassitude. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le sport, quand on court sur un tapis, comme un animal d'élevage, même si on regarde des séries, on trouve des trucs, on peut se lasser et on peut passer à autre chose, en fait.
Tout à fait.
C'est aussi pour vous un moyen de rétention pour essayer de garder plus longtemps les clients?
Exactement, ça a un impact déjà sur le côté attrayant. Quand vous allez dans un club fitness park, notamment la dernière génération qu'on a lancée en Espagne, il y a un côté vraiment assez révolutionnaire dans le design, dans l'approche, et même dans la pratique du sport. Donc il y a un côté qui va booster l'usage. Tant que ça peut booster l'usage pour faire plus de sport et être en meilleure santé, ça reste une idée tech et une idée expérience client qui va faire du bien et qui va pouvoir booster le corps grâce au sport. Donc ça reste une bonne tendance.
Alors Thomas, il y a un truc très intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de métavers en ce moment. Et alors je sais, bon, alors évidemment, il y a le masque, l'Oculus Quest 2, qui est un masque avec lequel on peut faire du sport, on peut par exemple faire de la boxe, vous disiez, mais jouer au ping-pong, enfin, etc., etc. Est-ce que vous pensez que demain, votre rôle, c'est aussi d'arriver dans ces univers totalement virtuels avec des avatars, etc., pour avoir une présence?
On a testé dans un club parisien l'avatarisation de certains de nos adhérents. Donc on a avatarisé 100 adhérents. On a un œuf géant avec plus de 250 petites appareils photo à l'intérieur qui ont permis d'avatariser ces adhérents pour avoir un double numérique. Et ce double numérique, on arrive à faire des projections d'évolution corporelle, donc de la prise de masse musculaire sur des zones particulières, mais aussi une perte de poids, par exemple, sur le ventre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de travailler des algorithmes qui vont nous permettre de proposer les bons programmes d'entraînement par rapport à ce souhait d'évolution de masse corporelle. Donc le côté avatarisation, il est déjà enclenché. Le côté métaverse, je pense que c'est une étape
futur,
mais je pense qu'on va pas échapper quand on voit tout ce qui se passe sur le métaverse. Le domaine du fitness et du sport, je pense, fera partie des premiers à investir ce nouveau monde.
Vous dites qu'il y a plus de 200 salles fitness park. Ça coûte de l'argent de les équiper de tous ces matériels, etc. Quel est votre calendrier là ?
Aujourd'hui, on a plus d'une trentaine d'ouvertures prochaines en France sur l'année 2022. Et avec l'ouverture du Maroc, on a du coup un nouveau pays à faire. Donc on a de belles perspectives.
Et toutes les salles existantes, vous allez aussi upgrader toutes ces salles pour qu'elles puissent accéder à tous ces outils ?
Progressivement. Déjà, on a mis en place toute la solution tech qui nous permet de capter la donnée et qui nous permet d'aller plus loin dans l'expérience client, la nouvelle application mobile, le programme d'entraînement sur Internet avec les lives. Tout ça a été déployé déjà. Et progressivement, les investissements sur les CAPEX doivent être étalés. Donc, on a une montée en version progressive, en sachant que l'Espagne a été notre laboratoire. Et aujourd'hui, un concept espagnol est avant-gardiste par rapport à une salle qui peut avoir encore 5-6 ans. Mais la montée en gamme se fait progressivement.
Merci beaucoup. Voilà le sport qui se numérise, les salles de sport aussi qui innovent, et c'est tant mieux. Thomas Mendonça, merci beaucoup. Vous êtes le directeur général digital et innovation chez Fitness Park. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant, bientôt 20h30. On revient juste après le journal de l'écho. À tout de suite.
BFM Business et 01 TV présente Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, et avant de vous présenter mon invité, je vous rappelle que demain, toute l'antenne de BFM Business de la matinale jusqu'au soir sera à Lyon. Et je serai ravi de vous présenter un Tech & Co spécial, donc avec le meilleur de la tech lyonnaise. Et croyez-moi, dans le domaine du jeu vidéo, de la medtech, des biotech, il y a de vraies pépites. Et je vous donne donc rendez-vous demain en direct depuis la CCI de Lyon Métropole. Jean-Marc Crépin nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir François.
Vous êtes le président directeur général d'Azure Drone, qui est un des leaders mondiaux du drone autonome de surveillance et d'inspection. Présentez-nous un petit peu Azure Drone aujourd'hui. Qu'est-ce que vous représentez sur ce marché ?
Alors Azure Drone, c'est une société bordelaise, parisienne et dubaïote maintenant, de 65 personnes, qui a donc développé un concept assez spécifique qu'on appelle le drone autonome, qui est une vraie révolution en fait, puisqu'on s'affranchit complètement de pilotes de drones, avec un certain nombre d'usages qui sont partis de la sécurité, mais qui vont maintenant dans l'inspection, à destination des grandes industries, des sites de la surveillance de sites sensibles, de sites critiques, et on travaille sur un certain nombre d'environnements qui vont du nucléaire au portuaire, à l'oil and gas au sens large, puisque nous travaillons avec le groupe Total maintenant, on va peut-être en dire un mot.
En parler, oui, bien sûr.
Et donc c'est un drone dont le vrai principe est qu'il n'est plus piloté. Donc les opérateurs peuvent l'utiliser, ils ont en fait un œil déporté, une caméra qui permet de capter de la data 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec différentes charges utiles, donc différentes caméras, mais il n'y a plus du tout de concept de pilotage qui permet de réduire les coûts d'exploitation et d'avoir beaucoup d'avantages pour nos clients.
Comment ça marche un drone autonome ? On en parle beaucoup, c'est rigolo, dans le transport de personnes en fait. Hein.
Oui.
Vous parliez de Dubaï, effectivement il y a des expérimentations qui sont faites et on s'était dit pourquoi de simples petits drones en fait dans le domaine professionnel ne l'étaient pas. Eh bien voilà, vous nous expliquez maintenant que ça arrive. Dans quelle fonction ça a du sens d'avoir un drone totalement autonome ?
Alors dans des fonctions, alors initialement on a démarré par la sécurité en se disant que le sens était évident, on cherchait vraiment des cas d'usage pour nos clients qui soient évidents, et dans la sécurité le drone conventionnel n'avait pas de sens finalement, puisque vous devez être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc la mise en œuvre d'un drone avec des télépilotes 7 jours sur 7 obligés d'être à la manœuvre rendait l'usage du drone compliqué.
Oui, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé d'avoir des gens qui regardent des écrans pour voir
et qui pilote le drone.
Voilà, qui pilote le drone, effectivement.
À partir du moment où on a pu amener cette révolution après 4 ans de développement donc de drone autonome, c'est-à-dire où il n'y a plus de pilotage du drone en tant que tel.
Vous inventez des caméras volantes.
C'est des caméras volantes, absolument. Les opérateurs chez nos clients ne gèrent plus que la vidéo, la data, que ce soit une caméra jour, une caméra nuit, un capteur de détection de fuite de gaz, un capteur de radioactivité.
Ou de présence peut-être
ou
aussi.
Ou de présence avec l'intelligence artificielle, ce qu'on commence à faire. Leur intérêt à eux, c'est la data et ce qu'ils en font, mais ils n'ont plus du tout à se préoccuper de la partie pilotage du drone, puisque le drone a une station au sol, décolle seul de cette station, fait sa tournée, entre guillemets, revient se poser, est réalimenté électriquement et est prêt à repartir. Donc ça a ouvert un univers complet sur la sécurité au démarrage. Et ce qui est amusant, c'est qu'on se rend compte finalement que nos clients, une fois qu'ils ont adopté la solution Skytech, tournent vers plusieurs applicatifs en nous disant « Mais si votre drone est capable de faire de la sécurité pour notre usine, pour notre site industriel, est-ce qu'il est capable d'aller protéger nos hommes au sol, d'intervenir et de vérifier si on a des fuites de gaz ou de points radioactifs pour protéger les salariés dans l'entreprise, pour accélérer les interventions, pour faire toutes sortes de supports ?» Donc en fait, l'utilisation est un champ infini d'applicatifs.
Il faut beaucoup plus de technologie pour qu'un drone devienne autonome.
Alors,
Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le drone, le souci, c'est l'autonomie, hein, quoi qu'on dise. Parce qu'au bout d'un moment, il faut recharger la batterie et rajouter des capteurs, rajouter de l'intelligence, etc. Est-ce que finalement, on ne perd pas ce qu'on pouvait gagner quand il était piloté manuellement ?
Alors, paradoxalement, l'autonomie en sens temps de vol n'est pas vraiment un enjeu pour nos clients, puisque les missions sont assez courtes, voire répétitives, quand c'est vraiment de l'inspection. En revanche, quand on parle de complexité, et si on se replace 4 ou 5 ans en arrière quand on a démarré, c'était un univers qui n'existait pas, donc c'était très complexe. Je dirais que c'est complexe. Je ne vais pas prétendre que c'est plus complexe que d'autres environnements. On est une PME de 65 personnes. Après 5 ans de développement, vraiment de manière focus, on a réussi. C'est surtout que c'est très différent. C'est-à-dire que toute votre architecture de pensée doit être remise sur la table, puisque par principe, vous allez demander à un drone de réagir et d'avoir des préprogrammations n'ayant aucun pilote. C'est-à-dire une rafale de vent, trop de vent, du brouillard ou autres éléments. Vous devez reconcevoir toute l'architecture de votre drone pour qu'il prenne les bonnes décisions, se poser, déclencher un parachute, arrêter la mission, tout type d'environnement, et c'est surtout l'architecture d'autonomie qui est importante.
Comment ça marche concrètement ? Est-ce que le drone est assez intelligent avec tous ses capteurs pour savoir où il est, ou est-ce que finalement, comme il est dans les airs et comme il fait toujours à peu près les mêmes parcours, grâce à des coordonnées GPS très précises, vous arrivez à lui dire « voilà, tu vas là, tu vas là, tu vas là », et tout se passera bien, puisqu'on sait qu'on est dans un environnement qui est maîtrisé.
Alors, le principe de base, c'est celui-là, vous avez raison, c'est qu'on est dans un environnement maîtrisé. En revanche, on développe évidemment de plus en plus la technologie, et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, ce sont des phénomènes ou des principes qu'on appelle, par exemple, le click and go. C'est de dire, puisque vous avez votre écran avec le suivi de votre drone, c'est de lui dire, je veux que tu ailles là d'un seul coup, et de cliquer simplement le point où vous voulez que le drone aille, et le drone y va.
Malgré tout, tout en surveillant son environnement.
Absolument, absolument.
D'accord.
Donc, c'est un mix. On n'est pas encore à 100% à l'autonomie. D'ailleurs, on voit même que des grands groupes comme Tesla, sur la voiture, ont du mal à aller jusqu'au stade ultime de l'autonomie avec des vraies prises de décision de la voiture, ce qui pose un certain nombre de questions. Donc on est entre l'automatique et l'autonomie.
C'est intéressant. Est-ce que vous pensez que ce type de drone pourrait arriver un jour avec des usages grand public, des drones de livraison, vous y croyez ? Alors juste, en termes de sécurité, vous avez peut-être suivi l'actualité avec Amazon qui prévoit de sortir un drone intérieur et qui va scanner en fait la maison, qui va se balader comme ça, se reposer sur sa base quand il aura plus de batterie. On peut imaginer que ça serait le gardien idéal pour surveiller votre maison quand vous n'êtes pas là. On peut imaginer que ce type d'appareil fasse ça demain ?
Alors, il est difficile de ne pas l'imaginer quand on voit les centaines de millions de dollars déversés dans cette industrie et dans certains applicatifs qui ne verront probablement le jour pas avant 5 ou 10 ans. Quand on parle du drone taxi, par exemple, je crois que les principaux freins sont avant tout déjà encore le développement de la technologie, des freins réglementaires très forts.
Oui.
Puisque avant d'imaginer avoir des dizaines ou des centaines de drones voler au-dessus d'une grande ville, on va quand même se poser la question de leur niveau de maturité, de fiabilité, qu'est-ce qui se passe en cas d'incident, les autres flux de trafic, avions, hélicoptères et tout ce qui peut voler. Donc aujourd'hui, on est dans un monde qui est encore relativement émergent, mais qui va voir un nombre d'applicatifs absolument terribles se développer, j'en suis convaincu. Ce qui est important, c'est de démontrer, je pense, pas à pas, que la technologie est fiable, qu'elle est mature, et c'est ce qui nous a permis chez Azure Drone, pas à pas, d'avoir la confiance de grands groupes et de pouvoir signer des partenariats aujourd'hui dont le préalable est, est-ce que votre solution est fiable et ne va pas percuter un mur, tomber au sol, et ainsi de suite.
Merci beaucoup Jean-Marc Crépin. Rappelons que vous êtes le président directeur général de cette belle boîte Azure Drone. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co. Et tout de suite, direction New York.
Tech & Co. What's up New York?
Sabrina Cagliosi est avec nous ce soir. Bonsoir Sabrina.
Bonsoir François.
Sabrina Cagliasi, vous le savez, qui, eh bien, depuis New York, nous tient au courant de toute l'actualité tech chaque soir. Et on va parler de BuzzFeed, un média numérique qui fait des premiers pas en bourse, on va dire, qui ne font pas justement le buzz.
Ah bah oui, c'est bien résumé. BuzzFeed, donc, qui est en vedette aujourd'hui à Wall Street à l'occasion de son introduction en bourse et qui recule dans un marché qui est pourtant haussier. Alors, en juin dernier, souvenez-vous, BuzzFeed avait annoncé sa fusion avec 890 Fifth Avenue Partners. C'est un SPAC qui l'ont déjà coté à Wall Street. Rappelons que le but d'un SPAC, c'est de lever des fonds pour préparer l'introduction en bourse d'une autre société, là en l'occurrence donc de BuzzFeed, qui alors, à l'époque, en juin dernier, il n'y a pas très longtemps, ambitionnait d'être valorisé à 1,5 milliard de dollars et de récupérer jusqu'à 288 millions de dollars via cette opération, François. Sauf que, malgré le buzz initial suite à l'annonce de la fusion avec le SPAC, eh bien, l'engouement est vite retombé et les investisseurs se sont retirés, figure-toi, du SPAC, forçant BuzzFeed à revoir ses ambitions à la baisse et à nous annoncer la semaine dernière qu'il n'allait lever que 16 millions de dollars via cette opération. Pas de quoi rassurer les investisseurs. Au Nasdaq, donc, aujourd'hui, ce matin, pour sa première journée de cotation officielle, eh bien, le titre a ouvert sur une hausse. On a bien grimpé de plus de 30%. Et puis là, ça retombe. Le titre perd un petit peu plus de 7% dans ce marché. Donc, qui est haussier, le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P 500 sont tous orientés à la hausse. C'est une déception. BuzzFeed qui, pour la petite histoire, rappelons-le, a été créé en 2006 à New York. Alors, elle s'est d'abord fait connaître pour ses quiz d'actualité à caractère viral avant de se diversifier en proposant notamment de longues enquêtes journalistiques, des séries sur YouTube ou encore de super recettes cuisine via sa chaîne Tasty. Et dans cette industrie où la taille est cruciale, les acquisitions sont importantes. En novembre de l'année dernière, le groupe avait, souvenez-vous, racheté le site d'information HuffPost à Verizon. Alors, on n'avait pas eu le montant de l'opération. Et puis, dans le cadre de sa fusion avec ce SPAC, BuzzFeed a mis la main sur Complex, spécialisé dans le sport et prévoit bien sûr d'autres acquisitions. Et l'argent bien été destiné à ces acquisitions. Rappelons qu'au premier semestre de 2021, les revenus de BuzzFeed étaient de 162 millions de dollars, à comparer avec les 123 millions enregistrés sur la même période de l'année passée. Les pertes, elles, parce que la société n'est toujours pas rentable, les pertes se sont élevées à 12 millions de dollars sur les 6 premiers mois de l'année, soit 7 millions de moins qu'à la même période en 2020. Alors, pourquoi c'était important aujourd'hui? Pourquoi c'est important cet IPO de BuzzFeed? C'est le premier acteur de ce secteur et de cette taille à faire ses premiers pas en bourse. C'est un big deal, une IPO qui était très attendue par la communauté financière, bien sûr, mais aussi par les acteurs de ce secteur. Vice, Vox, Bossol ont en effet fait savoir qu'ils regardaient aussi de très près Wall Street. Du coup, ces premiers pas décevants ne vont peut-être pas les motiver. Et on voit bien que ce marché des SPAC qui était très très solide, on en avait d'ailleurs beaucoup parlé ensemble en début d'année, ça commence vraiment à s'essouffler. Donc BuzzFeed qui ne fait effectivement pas le buzz à Wall Street, en repli aujourd'hui pour sa première journée de cotation au Nasdaq, François.
Merci beaucoup Sabrina. BuzzFeed, merci, et on se retrouve non pas demain, Sabrina, parce que nous serons à Lyon. Voilà, ville que tu connais peut-être, puisque toute l'antenne de BFM Business sera délocalisée à Lyon. Tu sais qu'on mange bien à Lyon, mais on n'aura même pas le temps de dîner. Nous, on termine à 22h. Tant pis. Bonne soirée en tout cas, à très vite Sabrina. Et vous restez avec nous, Tech & Co revient dans un instant avec au menu pour notre deuxième heure dans votre rendez-vous dédié à la tech. Ce sera notre débrief de l'actu du lundi. Une année chargée pour Apple cette année 2022 avec énormément de nouveautés. On en parlera avec nos experts tout à l'heure. Et puis ce sera notre plongée dans Station F comme chaque lundi soir avec le marché de Noël de Station F. C'est intéressant, ce sont des startups qui vendent des produits qu'elles fabriquent. numérique directement là-bas. On en recevra deux d'ailleurs. Vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant, juste après ceci. À tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Le retour de Tech & Co, il est 21h pile, merci d'être avec nous. Peut-être êtes-vous en train d'écouter Tech & Co à la radio ou alors installé sur votre canapé à la télé. Merci d'être là, bienvenue. Et puis un salut aussi à tous ceux qui nous écoutent en différé via podcast, que ce soit l'audio ou la vidéo. Sachez-le, hein, maintenant Tech & Co fait partie des podcasts les plus téléchargés en audio en France. Et nous vous en remercions évidemment dans la catégorie tech. On va débriefer l'actu jusqu'à 21h30 avec nos deux invités. Damien Morin, bonsoir Damien.
Bonsoir François.
Fondateur de Mobile Club et Frédéric Bianchi, journaliste à BFM Business qui était avec nous tout à l'heure. Frédéric.
Bonsoir, rebonsoir.
Rebonsoir. On va parler des rumeurs Apple pour 2022 avec évidemment toujours ces mêmes lanceurs d'alerte, hein, ces personnalités de la tech américaine qui ont des informations bien avant tout le monde et qui prédisent une année incroyable pour Apple en 2022. Ça sera dans un instant, mais on va commencer par ce cocorico spatial. Pas facile un cocorico spatial, hein, parce qu'on l'entend pas quand on est dans l'espace.
Non, le coq, quand il n'y a pas d'air, on n'entend pas son son. Voilà, on espère l'entendre depuis la Terre quand même. Hein.
Tout à fait, d'autant que là, le son, en plus, pourra revenir,
voilà.
Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'Ariane, on essaie de se raccrocher un peu, c'est pas facile, hein. J'ai vu le moment où je tombais là, je dégringolais de la falaise hein, quand même. Ariane qui veut lancer son lanceur, en fait, qui revient sur Terre. Un truc incroyable au début, les plus grands spécialistes du spatial ne croyaient pas, en fait, à Elon Musk en disant c'est pas possible, ils y arriveront pas. Elon Musk est arrivé et Ariane, visiblement, va s'y mettre aussi. Ouais. Damien, tu commences et puis après on donnera la parole à Frédéric.
Ouais, bien sûr. Bah, c'était évident, hein, de toute façon, que d'autres États se lancent sur cette nouvelle technologie. Il va y avoir de plus en plus de projectiles, si je puis dire, qu'on va pouvoir lancer dans l'espace, de plus en plus de satellites, de plus en plus d'infrastructures spatiales qui vont pouvoir être des supports en France et dans le monde pour les télécommunications ou autres. Donc évidemment, cette nouvelle technologie de lanceur réutilisable va être de plus en plus utilisée. Et donc, après, bon, c'est sûr, on va en parler après, j'imagine, avec les montants qui vont être évoqués, hein, d'investissement. Je pense que le sujet, c'est pas forcément de vouloir rivaliser avec des technologies américaines ou autres, etc. Je pense que l'idée, c'est d'avoir quand même une certaine souveraineté sur ces technologies. Et finalement...
arriver à se débrouiller pour certains usages. Notamment, je crois que là, c'est des lanceurs pour des petits satellites, hein, oui, qui seraient projetés en quelque sorte.
Oui, exactement. Oui, ce serait pas donc un gros modèle comme Ariane 6 qui va être lancé, donc qui va se développer dans les années à venir. C'est pour donc des petits lanceurs, des mini lanceurs, l'équivalent de ceux de SpaceX, pour mettre en orbite donc des satellites de taille plus réduite, avec un coût évidemment beaucoup plus bas, parce qu'on sait qu'aujourd'hui SpaceX est capable de lancer des lanceurs pour des coûts 5 à 6 fois plus bas que ceux d'Ariane. Ariane, évidemment, c'est cher parce que le lanceur, une fois qu'on l'envoie dans l'espace, eh ben, c'est disparu. Il faut en construire un nouveau si on veut lancer de nouveaux satellites dans l'espace. Donc oui, alors c'est très bien. Donc on rappelle, Bruno Le Maire est arrivé ce matin à Vernon. C'est un grand projet industriel. Vernon, donc, c'est le site d'Ariane Group en France. Hein. C'était plus de 1000 salariés. Alors ils ont perdu pas mal parce qu'on a délocalisé la production de certains réacteurs en Allemagne. Donc il y a 600 postes qui ont été supprimés. Oui. On s'est dit, le site de Vernon, il est peut-être un peu sur la sellette. Bruno Le Maire est venu aujourd'hui rassurer les salariés d'Ariane Group en France en disant non, Vernon, on ne laisse pas tomber. Vernon, c'est dans l'Eure, hein, c'est pas très loin de Paris d'ailleurs. Et on va investir. Alors donc la France va investir 1,5 milliard d'euros d'ici 5 ans. Donc pour développer, c'est le moteur Prometheus, donc, qui va équiper un lanceur. Alors a priori le lanceur s'appelle Themis. Enfin, en tout cas, on a fait déjà des premiers essais sur un petit lanceur qui pourrait être réutilisable. Et donc ce moteur Prometheus avec Themis, eh bien, ce sera le SpaceX à la française. Sauf que ce SpaceX à la française, on va pas le voir demain. Hein. On parle de 2026. On sait que souvent dans ces projets-là, oui, ben, il peut y avoir du retard.
Du retard, donc c'est 4 ans minimum.
On a pris beaucoup, beaucoup de retard, malheureusement. C'est vrai qu'Ariane était leader et toujours plus ou moins leader dans le lancement de satellites privés. Et c'est vrai que on a raté quand même là une révolution technologique. Alors ce qui est bien quand même, ce que je retiens dans ce milliard et demi d'euros qui vont être investis par la France, c'est que c'est pas que pour l'institution Ariane. Ce qu'a rappelé Bruno Le Maire, il a dit, nous, on soutient les institutionnels comme Ariane, mais on veut soutenir, on veut faire émerger...
Tous les acteurs de l'espace.
Exactement, on veut faire émerger
space tech,
une filière complète de space tech, hein, parce qu'on sait que toutes les innovations aujourd'hui sur ce marché-là, en tout cas aux États-Unis, elles viennent d'initiatives privées, SpaceX et l'entreprise d'Elon Musk, Blue Origin, l'entreprise de Jeff Bezos, Blue Origin. Donc voilà, ça vient du privé. Eh bien, c'est aussi la volonté de l'Europe et de la France de dire on veut faire émerger une filière, on va financer via France 2030 eh bien, plein de petits acteurs et peut-être que dans quelques années, on aura nos SpaceX et nos Blue Origin. Donc c'est bien que la France et que l'Europe s'y mettent. Maintenant, on a pris beaucoup de retard quand même sur une technologie sur laquelle on était leader.
Damien, tu veux rajouter quelque chose?
J'ai rien d'autre à ajouter. C'est vrai que de toute façon, bon, l'idée, c'est d'exister. Hein. C'est pas forcément de rivaliser, comme je disais tout à l'heure. Alors, pour la petite histoire, c'est un peu annexe au sujet, mais donc ils ont appelé leur lanceur Thémis, qui est en France le nom d'une banque spécialisée dans les redressements judiciaires. Donc, j'ai trouvé ça assez marrant quand j'ai lu l'article. Ouais. En fait, quand on a un redressement judiciaire, il y a quelques banques spécialisées pour ce type de procédure collective.
Qui te rattrape au fond de l'eau avant que tu te noies, c'est ça?
Ouais, exactement. Et je me suis dit que c'était quand même un clin d'œil marrant.
Il faut savoir qu'on a un certain savoir-faire dans le monde de l'espace. Tu parlais d'Arianespace, mais on a par exemple ce programme BLAST, qu'on évoque souvent dans Tech & Co, qui, en collaboration avec le CNES, soutient la space tech française. On a des start-up aussi, qui imaginent aussi des mini-lanceurs pour lancer des mini-satellites, parce que l'avenir, en fait, c'est d'envoyer de tout petits satellites. Et c'est ce que va faire ce futur lanceur qui reviendra sur Terre. De tout petits satellites, parfois pas plus gros que des boîtes à chaussures, mais qui vont donner de la data à des petites startups qui n'ont pas les moyens, bien évidemment, de dépenser des millions de dollars.
Il y a aussi, effectivement, parmi les projets qui vont être soutenus, l'ambition de lancer une constellation de satellites, comme Starlink d'Elon Musk aux États-Unis. Voilà, c'est de lancer ces constellations-là. Alors, est-ce que la législation le permettra, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a une pollution spatiale avec les satellites et des risques de collision. On sait que Elon Musk a dû répondre de ce type de problématique il n'y a pas longtemps aux États-Unis. Donc l'Europe n'abdique pas. Alors c'est vrai qu'on a parfois du retard à l'allumage, mais on progresse assez rapidement. On se souvient le GPS, on a eu des années de retard sur le lancement d'un système de guidage européen, et aujourd'hui le système de guidage européen, il est lancé, il fonctionne bien, on y a accès d'ailleurs de plus en plus avec nos smartphones. Donc voilà, quand l'Europe met les moyens, il y a une force d'entraînement qui fait qu'on peut rattraper nos concurrents américains. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien être parfois les pionniers, retrouver un petit peu l'initiative et être à l'origine de ces grandes innovations dans l'espace qui vont être quand même les grandes innovations de l'avenir. C'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait de l'Europe dans le retour sur la Lune, qu'il y ait éventuellement de l'Europe pour rêver d'aller sur Mars. Ce sont des projets à long terme, mais qui peuvent effectivement motiver une nation, un continent comme ça, vers de grands projets qu'on a un peu laissé tomber en Europe, où on est toujours un peu à la traîne.
Oui, qui donne un Américains but, en fait, Chinois. Un but technologique.
Ouais. Se projeter dans un avenir un peu positif. C'est vrai qu'on a l'impression de voir toujours les technologies comme des choses, comme des dystopies, comme des choses négatives, comme des choses qui font peur. Bon, on montre là qu'on y croit et qu'on y va et que ça peut changer et améliorer le monde aussi.
Bon, écoutez, on attendra d'avoir ce futur lanceur. C'est pas pour tout de suite, tu le disais, c'est 2026.
C'est 2026 au mieux, oui, on va voir.
Dans l'actualité aussi, aujourd'hui, c'est des rumeurs concernant Apple. Et on le sait, alors Apple se porte plutôt pas mal, même si Apple va vivre une fin d'année un peu compliquée. Pénurie de semi-conducteurs oblige, Apple ne pourra pas fournir les millions, les dizaines de millions de smartphones prévus. Damien, est-ce que tu... Alors, j'imagine que toi, en étant au cœur du réacteur, justement pour rester dans l'espace avec Mobile Club, est-ce que tu... C'est la fête ce soir. C'est le début de semaine, il faut en profiter.
C'est pas mal.
C'est le marché de Noël des blagues, donc on en profite. Est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu ressens, toi, cette pénurie de semi-conducteurs et ces baisses de régime chez les principaux principaux constructeurs de smartphones ou pas?
Évidemment, de plein pot. Hein. Donc, d'abord, nous, on fabrique aussi des produits. Je ne suis pas encore fabricant de smartphones, malheureusement, mais on fabrique nos propres chargeurs, etc. Et on est très impacté. À chaque fois qu'on passe des commandes, maintenant, c'est des délais absolument hallucinants. Et sur l'approvisionnement de produits Apple, en cette fin d'année, évidemment, il y a certaines tensions. Alors, ils ont réussi, je trouve, à pas mal préserver l'iPhone, qui est quand même le produit phare de la fin d'année. Hein.
C'est la vedette. Il faut protéger.
La majorité des ventes.
J'ai même lu qu'ils allaient ralentir la production d'iPad pour prendre les composants en fait qu'il y avait dans les iPads pour les intégrer en fait dans les iPhones. Alors évidemment, c'est les mêmes composants pour certains, pas tous, mais pour certains.
Ouais, bien sûr. Enfin, les matières premières, en tout cas, sont les mêmes. Donc l'iPhone a été plutôt préservé. Hein. Ils annoncent ils annoncent d'être à entre 90 et 95% de la demande. Donc ça va être.
Mais ils devaient en écouler 90 millions, ils n'en produiraient a priori que 80 millions, c'était les informations de Bloomberg de la semaine dernière.
C'est exactement ça. Donc c'est un peu plus de 90%, donc c'est plutôt pas mal. En revanche, les nouveaux MacBook, là, 14 pouces et 16 pouces, là ça devient compliqué. Là on est le 6 décembre, clairement si on commande un MacBook aujourd'hui, on n'est même pas assuré de l'avoir pour Noël, donc c'est 3 semaines, 1 mois de délai, c'est des délais qui sont rarissimes chez Apple, qui ont généralement une supply chain qui est vraiment bien rodée.
Alors, on va revenir dans un instant pour évoquer justement 2022. Espérons qu'on puisse sortir de cette crise, de cette pénurie de semi-conducteurs tranquillement en 2022. Et on va évoquer Marc Gurman, qui est journaliste à Bloomberg et qui, alors on ne sait pas comment, arrive toujours à avoir des infos avec tout le monde.
Il a une newsletter hebdomadaire dans laquelle il explique les petites infos que j'ai pu glaner chez Apple cette semaine.
Ça doit rendre fou de rage.
Et il y en a beaucoup. Oui. Alors là, pour le moment, on reste dans des grands axes théoriques, en tout cas pour certains produits. Même s'il y a des innovations pas mal, on va le voir après la courte pause.
Eh bien voilà, tu as tout fait.
La transition.
Tu pourrais être là en fait.
Attends, t'es pas au courant, t'as pas reçu le mémo?
Non, j'ai pas reçu. J'ai pas été viré par Zoom. On en parlait tout à l'heure. Tech & Co, la suite, peut-être sans moi. Ça va être le suspense. Restez là, à tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Je suis encore là. Frédéric Bianchi ne m'a pas pris encore la place. Frédéric, journaliste à BFM Business. Et Damien Morin, à nos côtés aussi, fondateur de Mobile Club. On rappelle vite le concept de Mobile Club, Damien.
Bien sûr, on fait de la location.
Pour tous ceux, pour les malheureux qui ne connaîtraient pas encore ces superbes affaires qu'on peut faire.
Qui ne louent pas encore leur smartphone chez nous. Voilà. Donc on fait de la location de produits Apple, essentiellement iPhone. Mais maintenant, on loue aussi des Mac à destination des entreprises. Donc on a lancé un service de location qui permet de louer son smartphone pour une vingtaine d'euros par mois. Avec tout compris dedans, c'est-à-dire l'assurance, de la flexibilité, la possibilité de changer souvent de produit. Voilà.
Et les gens arrivent à s'éloigner en fait de cette sensation de propriété pour louer un téléphone et se dire finalement ce téléphone il n'est pas à moi.
C'est un grand
sujet. C'est vrai que c'est franco-français.
C'est pas très français en effet. Hein, la location, on n'est pas, de toute façon, on n'aime pas énormément tous les produits financiers. Il faut savoir qu'outre-Atlantique, aux États-Unis par exemple, 60% des iPhones vendus en Apple Store sont vendus avec le service de leasing d'Apple.
Oui, parce qu'Apple loue les iPhones.
Exactement.
Et pas en France.
Apple
c'est un signe.
Apple programme. Ouais, tout à fait.
C'est un signe.
Donc nous on a lancé un produit qui est un peu comme Apple, qui est très flexible, qui permet de changer de smartphone quand on le souhaite, de pouvoir casser son leasing pour pouvoir en recevoir un nouveau avec une assurance vol et casse incluse.
Et à quel prix par exemple pour un iPhone 13?
Alors on n'a pas le 13.
Tu as un client potentiel là.
On a une année d'écart entre les sorties Apple. Justement, comme le service est très flexible, il y a une perte de valeur qui est forte au déballage. Donc on a toutes les générations d'Apple à partir du 12 et l'iPhone 12 ça démarre à 23 € par mois, assurance comprise.
Et est-ce qu'on peut louer du reconditionné, tiens ?
Ouais, l'essentiel de nos produits sont reconditionnés. Après, l'intérêt de notre service, c'est vraiment d'amener le client dans un usage, de pas forcément s'attacher, notamment à la qualité cosmétique peut-être du produit qu'il aurait dû recevoir, etc. En fait, c'est son smartphone, le temps qu'il l'utilise.
Ouais. Et quand il en a marre, il veut un modèle plus récent.
Soit parce qu'il est en panne, soit parce qu'il se le fait voler ou casser, etc. Il en change n'importe quand, exactement.
Et bien voilà pour Mobile Club. Commence à avoir du monde hein, sur ce segment. Hein. J'ai interviewé une boîte qui s'appelle Next Mobile. Se lance aussi sur avec un concept un petit peu différent, mais on est vraiment voilà dans cette volonté de
ben voilà exactement.
De pas attacher d'importance à un produit qu'on achète, finalement on le loue. On revient à l'actualité Apple, et donc cette année 2022, on le disait, Mark Gurman de Bloomberg qui sort sa boule de cristal comme régulièrement pour nous prévenir, attention, l'année 2022 chez Apple va être une année en béton armé, avec énormément de produits qui pourraient sortir, Frédéric.
Oui, alors il y aura beaucoup de produits. On va commencer quand même par la grosse annonce, alors qui n'est pas vraiment une annonce de lancement de produits, mais c'est plutôt la confirmation de ce qu'on se doutait, c'est la fin de la relation Apple-Intel. Alors depuis, ça faisait 15 ans que Intel fournissait à Apple une partie de ses, ou toute ou partie de ses processeurs. Apple, on sait qu'ils ont voulu rompre avec Intel, hein, ils ont lancé les premiers Mac avec leur propre puce, la puce M1 produite, en tout cas conçue par Apple, c'était fin 2020. Ils ont commencé à les implémenter sur les Mac d'entrée de gamme, les MacBook Air, les MacBook Pro les moins puissants. Et donc à partir de fin 2022, en tout cas c'est ce qu'assure Bloomberg, eh bien c'est fini, il n'y aura plus que des puces M1, M2 sur les Mac. Voilà. Alors est-ce que ça va vraiment se passer? On sait que le PDG d'Intel a dit encore en octobre, eh ben, c'est pas encore foutu, on espère renouer la relation avec Apple. Bon, on va voir s'il réussit. En tout cas, voilà, Apple, ils ont envie de reprendre la main sur leur puce et proposer vraiment une expérience complète où ils concevront à la fois eh bien, l'ordinateur et l'ensemble, enfin en tout cas une bonne partie des puces, notamment le microprocesseur, à l'intérieur de leurs ordinateurs.
Bien sûr. Bon, en réalité, c'est déjà fini. Hein.
Oui.
Aujourd'hui, les puces Intel, ce n'est plus que pour le segment très 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 haut de gamme, oui. À savoir le Mac Pro, celui qui ressemble à un grille-pain, hein, qui a fait sensation d'un point de vue design.
Les iMac aussi,
ouais. Exactement. Qui ne doit pas représenter énormément de parts de marché.
Non, hein,
toutes les
non, évidemment.
De la, Mac, chez
ouais.
Apple.
Hein. À la sortie des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, ils ont remis un petit coup sur toute leur gamme. Donc maintenant, c'est vraiment de la puce M1, M1 Pro et M1 Max sur toute la gamme laptop, sans exception.
Voilà, donc en 2022, nouvelle puce, justement, le DM2, hein, c'est pas très original, mais que voulez-vous? Après le M1, il y a la M2. Donc, nouveau processeur, mais c'est... Il n'y a pas que ça.
Y a pas
évidemment,
que ça.
Il y aura les nouveaux iPhone, on peut s'en douter, hein, en 2022, mais il y aura des nouveautés.
Oui, alors des nouveautés. Alors d'abord, sur un produit qu'on connaît bien, l'iPad, il y aurait enfin, je dis enfin parce que moi je l'attends quand même ça, la recharge sans fil des iPads. Ça, c'est vrai que c'est une innovation. Enfin, sur les iPhones, on peut les recharger avec MagSafe depuis longtemps maintenant. Mmh. Ça doit faire 3 ou 4 générations qu'on peut les faire comme ça.
2 générations. Ouais.
2 générations. Mmh. Eh bien maintenant, ça devrait arriver sur les iPads, a priori. Donc on ne sait pas si ce sera MagSafe ou pas, si on pourra mettre des iPads sur des iPhones pour recharger l'ensemble de tout ça.
Ouais.
Ça pourrait être pratique, mais c'est vrai que c'est une innovation qu'on attendait sur l'iPad et dont on comprend pas trop pourquoi elle a mis autant de temps à arriver. Moi, par exemple, je vais vous raconter ma petite expérience personnelle. J'ai la connectique de mon iPad, je l'ai détériorée, donc il ne rechargeait plus. Je me suis dit, tu vas aller à l'Apple Store, tu vas acheter un MagSafe et tu vas recharger ton iPad comme ça et puis tu feras réparer un jour ou l'autre ton connectique. Raté, ça ne fonctionne pas. J'ai dû aller faire jouer la garantie pour me faire réparer la connectique. Donc voilà, c'est vrai que
je pense que cette
innovation sur les iPads, il fallait qu'elle arrive, quoi.
C'est difficile avec un aussi gros objet de viser le centre.
Je pense qu'Apple n'a pas peut-être trouvé tout de suite la praticité que toi tu imagines.
Moi, c'est vrai, il y a 3 semaines, j'aurais eu, en tout cas.
Mais alors, c'est vrai que comme c'est aimanté, on peut imaginer qu'on puisse le trouver assez rapidement, finalement. Et quand il se plaque, ça recharge l'iPad.
Oui, mais
ça va arriver.
La plupart des chargeurs à induction n'ont pas, ne sont pas des fiches MagSafe. Ils n'ont pas ce fameux aimant Apple, etc. La plupart des chargeurs à induction aujourd'hui, ça reste.
Oui, ça reste quelque chose sur lequel on pose en fait un smartphone et il se recharge si on a un peu de chance et s'il est bien placé.
Ouais, exactement.
Mais là, c'est vrai que ça peut changer. Après, il faut pas oublier que la recharge par induction n'est pas aussi efficiente et efficace qu'une recharge filaire. Hein. Et pour recharger un iPad, nécessite
vrai.
beaucoup d'énergie, plus
grosse
qu'un
batterie,
iPhone.
Ça peut mettre du...
Il va falloir un système, à mon avis, par induction important. Autre nouveauté, alors, on va pas toutes les faire, mais AirPods Pro, ça on peut s'y attendre. Hein. Voilà, le précédent AirPod commence à dater. Donc nouveaux AirPods Pro, une nouvelle Apple Watch pour les randonneurs. C'est Mark Gurman qui imagine ça. Donc voilà, une montre qui serait plus abordable et qui serait peut-être plus spécialisée sport extrême. Pourquoi pas ? Ça peut avoir du sens. Un iPhone 5G SE, vous savez, ces ouais. iPhone SE pas très très chers. Et puis, peut-être.
Et puis enfin, oui, parce que c'est vrai que ça fait depuis les AirPods, je crois, il n'y a pas eu vraiment de nouveaux
non.
produits.
De nouvelles
hardware,
gammes de produits.
De nouvelles
en quelque
gammes
sorte.
De produits. Eh bien, donc selon Mark Gurman, 2022 serait l'année du premier casque virtuel Apple. Donc voilà, on a
ça,
pas
c'est du lourd, hein, quand même.
Oui, alors ouais. ce serait
alors, ben, j'espère qu'il ne sera pas trop lourd parce que.
Oui, sinon après ça peut faire mal à la nuque. Mais donc voilà, on n'a pas beaucoup plus d'informations à l'heure actuelle. On va voir. On se doute bien que Apple travaillait sur ce type de technologie-là. Et bon, alors connaissant Apple, a priori ils vont arriver avec un produit sans doute meilleur que les autres, en tout cas avec une gamme de services adaptés, parce qu'aujourd'hui, bon, les casques de réalité virtuelle, ça reste quand même un produit de niche. Hein. On voit que Facebook n'a pas réussi à en faire vraiment un produit très mass market.
Alors c'est pour ça qu'il accélère d'ailleurs, que Facebook accélère sur le métavers, hein, peut-être pour redonner,
oui, voilà, alors, pour redonner
un élan à tout cela. Qu'est-ce que tu en penses, tiens, Damien? On n'a pas eu encore ton point de vue sur le métavers.
Ouais, ben justement, je trouve que c'est un peu à l'encontre de la culture Apple. J'ai trouvé qu'ils avaient été assez pionniers, mine de rien, dans la déconnexion. Puis c'était quelque chose qui a toujours été assez fort dans cette culture californienne. Enfin, moi, je me rappelle, il y a encore 4 ou 5 ans, je me souviens d'un séjour en Californie où, vraiment, dans la Silicon Valley, il y avait une nouvelle mode. Tout le monde mettait son iPhone en noir et blanc. Je disais, mais pourquoi vous mettez votre
iPhone? Pourquoi vous faites ça?
C'est super nul. Et il disait, bah, justement,
ouais,
en fait,
tu comprends rien,
c'est
en fait.
Tellement nul ouais, que ça. Du coup, on passe moins de temps sur notre téléphone, etc. Et ça, ça a toujours été quelque chose de bizarrement assez ancré dans
la culture.
C'était
pas mode. Ça serait intéressant d'y retourner pour voir s'ils ont tous réglé leur téléphone sur noir et blanc.
Au-delà de la mode, il y avait une idéologie quand même derrière qui était de, malgré qu'il y ait énormément de technologies, énormément de connexions, il était important de rester quand même un petit peu dans le mode réel, dans le monde réel. Ce qui quand même est à l'antipode des stratégies de Facebook, notamment avec le métavers. Et j'ai trouvé que dans cette lignée, Apple avait toujours construit plein de fonctionnalités sur l'iPhone en ce sens. Le temps qu'on passe sur chacune des applications, le fait de pouvoir fermer automatiquement une application après y avoir passé trop de temps dans la journée, etc. etc. Et je trouve que le casque de réalité virtuelle, c'est le métavers à son paroxysme. C'est la déconnexion totale, être dans un univers totalement immersif où on rencontre ses amis dans un monde virtuel.
Et Mark Gurman dit une chose intéressante. Il dit que, en fait, ce produit serait un concept de produit que Apple pourrait dévoiler l'année prochaine, mais avec pas un produit définitif tout de suite. Et je pense qu'Apple est en train de sonder un peu le marché. Ils vont lancer peut-être un concept. C'est déjà arrivé chez Apple de lancer comme ça des concepts qui... L'iPad est sorti plusieurs mois plus tard. L'iPhone aussi, le premier iPhone, avait été présenté par Steve Jobs, était sorti 6-7 mois après. On peut peut-être imaginer que là, Apple pourrait présenter une espèce de proof of concept et voir comment les développeurs pourraient s'accaparer.
Oui, voilà, c'est peut-être sans doute une conférence développeurs qui pourrait être présentée ce produit-là pour savoir un peu, pour développer des services. Après, ça fait 3-4 ans, je crois que c'était en 2017 ou 2018 qu'il y avait eu toujours Bloomberg, une annonce. Apple travaille sur des lunettes de réalité augmentée, donc c'était pas de réalité virtuelle, mais c'était des équivalents de Google Glass. Elles vont arriver cette année, donc cette année en l'occurrence c'était 2018. On n'a rien vu venir. On voit qu'Apple, certainement, ils ont des équipes de R&D qui travaillent comme ça sur des concepts autour d'appareils un peu plus intrusifs, quoi, en tout cas qui seraient un petit peu plus présents autour de nos visages, qui seraient comme ça. Bon, ils ont toujours pas trouvé, semble-t-il, quelque chose qui puisse...
La killer app, truc qui fait qu'on craque tous dessus.
Qui puisse fonctionner. Les lunettes de réalité augmentée, pour le moment, il n'y en a pas vraiment sur le marché, voire pas du tout. Et les casques de réalité virtuelle, mais c'est cantonné aux jeux vidéo et ça reste même une niche sur le jeu vidéo.
Bon, on verra bien ce que va nous annoncer Apple dans les mois et les semaines qui viennent. Autre actu qu'on a pu lire cette semaine et aujourd'hui même sur le site 0net.com, c'est la place de marché Bitmart avec l'un des plus grands vols dans l'histoire des crypto-actifs, parce que des pirates, écoutez bien, ont réussi à mettre la main sur la clé privée de deux importants portefeuilles de cette fameuse place de marché Bitmart. Résultat, ils ont pu extraire pour 150 millions de dollars d'actifs.
Oui. Ouais, c'est une information qu'on a apprise aujourd'hui. Donc 150 millions de dollars, voire davantage selon le patron de la plateforme. Lui, il parle même de près de 200 millions de dollars. 100 millions en Ethereum et 96 millions sur Binance. Donc voilà, on voit que... Alors après, c'est des systèmes très complexes.
C'est très complexe,
les clés ont été
Damien,
volées.
On est vraiment sur des cryptos, là.
Ensuite, les cryptos sont passés dans des
lessiveuses. Parce que tout ça a été transformé en Ether avant de passer dans un mélangeur Tornado Cash.
Oui.
Je ne sais pas si tu connais le mélangeur Tornado Cash dans les crypto-monnaies.
Pas très bien.
Moi non plus. Enfin voilà, tout ça permet sans doute de laver un peu, de blanchir cet argent, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, Damien ? Tu suis un petit peu tout ça, toi, les cryptos ?
Moi, je suis pas mal, ouais, mais je suis resté très en surface quand je vois la manière dont ça évolue. Maintenant, c'est devenu extrêmement technique, notamment tous les sujets de smart contact, en fait. C'est ça qui est devenu très technique. C'est-à-dire que maintenant, tout est encodé dans la blockchain et il y a tout un tas d'applications, en effet, qui peuvent modifier des assets, notamment convertir automatiquement en Ethereum. Alors, il y a maintenant des monnaies où, en fait, parce que c'est des portefeuilles RC20, tout passe par l'Ethereum, quel que soit le token en fait. Quand il rentre sur la blockchain, il est encrypté dans la blockchain, ça passe par l'Ethereum et ça se retransforme dans le coin initial. Donc il y a beaucoup de technologies. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de technologies, beaucoup de process, de plus en plus de failles.
Il y en a qui en profitent. Ces 50 millions qui ont été dérobés. Alors, il faut savoir que Bitmart a dit qu'ils allaient rembourser.
Oui, ils vont rembourser toutes les personnes lésées
qui ont été lésées,
perdues, donc leur portefeuille en crypto-monnaie. Donc voilà, c'est bien. La plateforme a été fermée le temps de mener l'enquête. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a un vol comme ça de crypto-monnaies et de clés privées.
Pour tous ceux qui ont investi là-dedans, perdre alors peut-être des milliers ou des dizaines de milliers d'euros ou des centaines, c'est quand même assez violent.
C'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui détiennent des crypto-monnaies à les détenir en perso. C'est-à-dire, avec vraiment sa propre clé, écrit pourquoi pas sur un bout de papier. En effet, dès qu'on fait, on les met sur des marketplaces, etc.
On multiplie les
risques.
On multiplie les intermédiaires et donc évidemment les risques et les risques d'erreurs humaines.
Merci à tous les deux. Merci Damien. À très vite.
Plaisir.
Damien Morin, fondateur de Mobile Club, et Frédéric Bianchi, journaliste à BFM Business. Bientôt 21h30, le journal de l'écho, Claire Cecchiaghini. Et puis comme chaque lundi, ce sera notre plongée dans Station F. À tout de suite.
Tech & Co. Les pépites de Station F.
Plongé dans Station F, comme chaque lundi, on vous fait découvrir quelques-uns des recoins de ce grand incubateur, l'un des plus grands incubateurs, en tout cas européens, au monde, avec plus de 1000 startups. Chaque semaine, on essaie de vous faire découvrir un thème différent. Figurez-vous que le week-end prochain, Station F sera ouverte au grand public à l'occasion du marché de Noël. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? 50 startups qui fabriquent des produits, des produits concrets, alors ça peut être des services aussi, seront là pour les vendre aux visiteurs, puisque ce sera donc un week-end portes ouvertes chez Station F. Ça va être très sympa. Alors, est-ce qu'il y aura du vin chaud ? C'est ce que me demandait Claire Cecchiaghini tout à l'heure. On va peut-être pouvoir poser la question à nos invités. Bonsoir Marine Bilis.
Bonsoir.
Vous êtes cofondatrice de T-Bike. Vous êtes venue sur ce plateau avec justement ce que vous allez pouvoir vendre durant ce marché de Noël. Et Nicolas Dévé est avec nous. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur donc de Bubble. Alors, est-ce qu'il y aura du vin chaud, Station F ? Parce qu'en général, c'est souvent corrélé au marché de Noël.
On l'espère.
Bon, vous l'espérez, mais pas trop quand même.
Sinon, on va l'apporter nous-mêmes.
Oui, mais pas trop quand même, parce qu'à la fin de la journée, ça ne va pas être joli quand même. Et rappelons que l'abus d'alcool est à consommer, et dangereux pour la santé, c'est toujours à consommer avec modération. Plus sérieusement, donc, je le disais, le week-end prochain, Station F est ouvert. C'est un événement parce que c'est un lieu qui est fermé au public. Là, tout le monde pourra venir pour découvrir donc ces 50 startups de cet écosystème qui vont vendre des choses. Deux exemples avec vous. Marine, on va commencer par votre roue. De quoi s'agit-il ? Même si j'en ai une petite idée.
Alors cette roue, c'est la roue T-Bike et c'est une roue qui électrifie les vélos juste en changeant sa roue avant. Donc vous avez votre vélo, vous retirez la roue avant, vous la remplacez par la roue T-Bike. On a choisi la roue avant parce que c'est la plus facile à monter et démonter et qu'on veut que ce soit vraiment accessible au plus grand nombre.
Et une fois qu'elle est installée, il n'y a pas les chaînes et
exactement.
Tout ça.
Et une fois qu'elle est installée, vous la connectez en Bluetooth à une application que vous téléchargez sur votre téléphone. Et c'est via l'application que vous allez pouvoir choisir votre niveau d'aide électrique. Du coup, il n'y a aucun câble à installer, il n'y a pas de compétences techniques particulières à avoir, il y a juste une roue avant à changer, un téléphone portable à avoir. Et ensuite, vous avez transformé votre vélo en vélo électrique.
Alors, c'est vous qui la fabriquez, vous nous dites que c'est facile à installer. Mais moi, je ne suis pas du tout bricoleur, Marie, il faut le savoir. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ?
Vraiment, oui, vraiment. On l'a fait, on l'a fait monter il y a 2 ans à une journaliste en direct de BFM Business qui était venue au salon Autonomie.
Très bon choix.
On se lançait, et bon elle l'a monté en moins de 5 minutes. Donc vraiment, c'est fait pour être le.
Elle n'avait pas fait de répétition avant,
répétition.
Tout ça.
Non.
En fait, il suffit quoi ? De dévisser les écrous.
C'est ça.
C'est comme ça sur
exactement.
La plupart des vélos,
ouais,
en fait.
C'est ça.
On dévisse les écrous, exactement. On enlève la roue. On pose celle-là,
oui.
Mais est-ce que cette roue est standard et va sur tous les vélos, Marine ?
Elle va sur tous les vélos. Elle est compatible avec 90% des vélos. Les quelques-uns qui peuvent parfois poser problème, ça va être ceux qui sont très fins et qui ont des écarts de bras de fourche qui sont trop fins.
Mm-hmm.
Ce qui en réalité n'est pas vraiment un problème parce que les gens qui ont des vélos comme ça ne sont généralement pas à la recherche d'une électrification. Et sinon, c'est compatible avec tous les vélos. On a différentes tailles de roues, donc vous avez juste à choisir celle qui est la bonne pour votre
vélo. Ah d'accord, donc
ouais.
Il existe plusieurs tailles.
Exactement,
en
ouais.
Fait.
Ouais.
Et c'est quoi la différence des tailles ? C'est simplement pour trouver une espèce d'équilibre avec le vélo ?
Selon le vélo que vous avez différentes tailles, diamètres de roues. Et du coup, il suffit juste de choisir la bonne taille pour que ce soit en raccord avec votre roue arrière.
Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de cette roue, il y a un moteur électrique qui va entraîner cette roue.
Oui.
C'est ça ?
Ouais. Il y a les batteries, il y a tout. Vous avez à vous soucier de rien, vous recevez juste la roue telle qu'elle, vous l'installez, et après tout est bon. Pour la recharger, vous avez un chargeur, comme un chargeur de téléphone, que vous allez plugger au centre de l'axe, et c'est comme ça que vous rechargez la roue en un peu moins de 4 heures, vous êtes rechargé à 100%.
Donc la batterie n'est pas amovible. C'est pas terrible ça, non ? Quand on est dans un immeuble, il faut monter son vélo. Alors si on a un ascenseur, ça va, mais...
Très sincèrement, c'est pas un problème
pas un
pour
souci.
Tous nos utilisateurs. Ils vérifient avant toutes les spécificités de la roue et elle répond quand même à beaucoup de besoins. Il y a les caves, il y a sur les lieux de travail aussi où il y a de plus en plus d'endroits où on peut charger son vélo électrique parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'équipent de vélo électrique. Donc en réalité, c'est une limite sans vraiment en être une pour nos utilisateurs.
Dites-moi, vous êtes en train de faire votre speech pour le marché Noël, vous êtes en train de tout répéter là ce soir. Parfait. Nickel. Pour l'instant, c'est très bien. J'espère que Nicolas sera au niveau. Hein. Je ne vais pas lui mettre la pression avec Bubble, mais évidemment, c'est vous qui créez ces produits. Donc, j'ai aucun souci sur la manière dont vous les présentez. Juste une petite question. Vous m'avez parlé de Bluetooth.
Oui.
À quoi ça sert de connecter mon smartphone à cette roue ?
Ben, ça vous permet de ne pas avoir de câble pour relier la roue à votre boîtier, en l'occurrence là au smartphone. Mais en fait, si vous n'aviez pas de connexion en Bluetooth, vous auriez un boîtier installé avec un câble. Du coup, ça rajoute quand même des petites compétences à avoir, un niveau de technicité que tout le monde ne se sentirait peut-être pas d'avoir. Le Bluetooth, c'était vraiment de se dire, on part de ce que tout le monde a déjà, un smartphone. La majorité des gens maintenant ont un smartphone dans leur possession. Et du coup, pour pouvoir utiliser ce smartphone en connexion avec la roue, il suffit juste d'activer le Bluetooth.
D'accord. Quelle est l'autonomie ?
On est sur une moyenne de 60 km d'autonomie.
Ce qui suffit, on va dire, pour la plupart des usages. Hein,
ouais.
Puisque là, vous visez, j'imagine, le trajet domicile-travail.
Exactement, ouais.
Donc voilà,
ouais.
Si on fait plus de 60 km, c'est que vraiment, on est costaud. Hein. Et on peut moduler la puissance électrique ?
Oui. Vous avez sur l'application 3 niveaux d'aide électrique. Et
oui.
Du coup, vous choisissez celle qui vous correspond. Si vous avez besoin de couper le moteur pour retrouver votre vélo classique, vous appuyez sur stop et le moteur se coupe. Et on a une petite aide au redémarrage si vous êtes en côte, si vous avez besoin.
Bien pratique.
Qui est le mode boost. Et avec toutes ces fonctionnalités, on a des utilisateurs qui sont vraiment très très contents et qui reprennent beaucoup plus le vélo.
Alors, j'y comprends rien, mais je me dis, est-ce que le fait que le moteur et la puissance, en fait, la traction soit à l'avant du vélo, ça passe bien ? Enfin, je veux dire, c'est pas déstabilisant, on va pas perdre l'équilibre Le centre de gravité du vélo.
On y a vraiment travaillé justement pour faire en sorte qu'on garde toute la maniabilité du vélo et du guidon et que ce soit pas déstabilisant d'avoir ce poids à l'avant du vélo. Quand on regarde un petit peu la roue, en fait, on voit que le moteur il est légèrement décentré sur le côté. Et ça fait partie de tout le design auquel on a travaillé justement pour que la répartition des masses soit la plus efficace et la moins impactante sur la conduite possible.
Et ça coûte combien?
Ça coûte 795 euros.
D'accord. C'est adaptable sur la plupart des vélos, ce qui fait que j'ai un vélo qui commence un peu à dater, mais qui est en bon état. Ben, je peux le pimper en quelque sorte.
Ça. On lui donne une nouvelle vie, ça devient un vélo 2 en 1, parce que ce qui est vraiment pratique, c'est que du coup on garde le vélo qu'on avait déjà. Mm-hmm. Et si on veut repasser à son vélo classique, on a juste à changer la roue. Donc on jette pas, on recycle, on upcycle même, et on a un vélo qui, en termes de performance et de prix, ça reste un budget, hein, 795 euros, mais si on compare à un vélo complet à performance similaire, on est à minimum 2 fois moins cher.
Ça coûte cher, hein. C'est compliqué d'avoir un bon vélo électrique à moins de 2000 euros aujourd'hui.
C'est ça.
Nicolas, alors vous n'êtes pas venu avec une roue. Tout est dans la tête.
Tout à fait.
Expliquez-nous, vous êtes le cofondateur de Bubble et qu'est-ce que vous allez vendre donc au marché de Noël ce week-end à Station F?
Eh bien, on va vendre des produits vieux comme le monde. On va vendre des livres, mais des livres un peu plus modernes qui apparaissent depuis 1930. C'est des bandes dessinées, des comics et des mangas. Puisque nous, avec Bubble, on est une plateforme digitale qui est faite pour les petits et les grands amateurs de 9e art. Au sens large. Mmh. Et nous, on leur permet en fait de les acheter, de les commander à travers des libraires indépendants ou alors de se les faire livrer chez eux depuis notre entrepôt. Et là, ce week-end, du coup, on s'improvise libraire pour le week-end. On va avoir une quarantaine de références qui n'est pas énorme, mais on va avoir du coup les blockbusters, les best-sellers en manga, en BD et aussi quelques comics pour tous les gens qui veulent, qui seront là.
Donc le concept de Bubble, c'est d'être une espèce de place de marché de la bande dessinée, c'est ça?
Absolument. Mais avec des petits secrets, c'est que comme on est sur notre spécialité de bande dessinée, on a plus d'offres que sur Amazon ou à la Fnac.
Ce qui est déjà une belle prouesse, parce que
on a une offre très très large.
Il y a quand même du choix sur ces géants-là. Hein.
Et puis on a aussi des petits secrets physiques, c'est qu'on a des emballages aussi beaucoup plus soignés. On a repéré que le problème chez les grands e-commerçants, c'est qu'ils vous livrent un petit peu de manière semblable ou neutre ou standard tous les produits, que ce soit des produits électroniques ou des BD. Nous, on va venir vraiment emballer vraiment très soigneusement les bandes dessinées qui peuvent être abîmées. Comme les bandes dessinées, c'est un petit peu onéreux.
Et il y en a beaucoup qui les collectionnent.
Il y en a beaucoup qui les collectionnent. Et bien nous, on fait gaffe et on envoie ça de manière très soignée. Le dernier point pour lequel on est un petit peu différent, c'est qu'on a une grande communauté de plus de 200 000 membres. Et donc, ils notent, ils mettent beaucoup d'avis, de recommandations. Et ça, on est aussi fiers parce qu'on a plus de notes, plus d'avis que sur les grandes plateformes aussi.
Donc la recommandation doit marcher à fond, parce que si j'achète tel BD ou tel manga, on va me proposer en fait, les algos vont me proposer ce qu'ont peut-être acheté les autres possesseurs de la manga, du manga que je viens d'acheter, c'est ça?
Absolument. En fait, il y a une offre tellement pléthorique qu'on est obligé d'avoir des recommandations algorithmiques, mais on a aussi tout simplement des recommandations humaines, puisque les gens peuvent se partager leur profil, leur collection, ce qui leur manque et leur wishlist, pour s'échanger les bonnes recommandations.
Vous avez combien de clients aujourd'hui chez Bubble?
On a près de 20 000 clients maintenant sur tous nos utilisateurs.
D'accord. Et donc là, ce week-end, vous allez déballer vos cartons avec vos bandes dessinées, peut-être les plus recherchées, les plus populaires, c'est ça?
C'est ça, on a les plus recherchées, les plus populaires depuis peu. On a les cartons qui ont, je peux dire le mot, c'est Goldorak, que vous connaissez sûrement.
Mais oui.
On a une adaptation qui est un peu comme c'est une BD franco-japonaise, donc c'est un manga, mais qui a été un peu francisé. Donc ça, on va en avoir. Et on va déballer vendredi matin.
C'est fou ce retour de Goldorak, là. Hein,
c'est incroyable.
Incroyable, les dessins animés... tout le merchandising, voilà.
Et ce qui plaît beaucoup, c'est que c'est une histoire complète. Donc c'est pas une série qui va faire 100 tomes, c'est une histoire, après c'est terminé, c'est épais, et c'est vraiment une très très belle BD que du coup vous pourrez acheter si vous venez, François, ce week-end.
Eh bien écoutez, bien volontiers. Est-ce qu'il y a des BD qui coûtent cher sur votre site?
Tout à fait. On a des BD, alors vous avez des BD qui regroupent plusieurs BD, ça s'appelle les intégrales ou les coffrets. Celles-là coûtent très cher et ce sont des BD très très prisés pour Noël à offrir.
Oui, là c'est vraiment le beau cadeau, un peu statutaire on va dire. Dans le monde de la bande dessinée, ça peut coûter combien ça?
Ça peut coûter entre 30 à 40 euros.
Ah oui, quand même.
Et après on a les BD pour les adolescents ou pour les jeunes, c'est les mangas. qui sont en papier recyclé, beaucoup plus cheap, mais qui coûtent entre 7 et 9 euros.
Oui, là qu'on dévore et qu'après où on revend, où on prête, c'est ça ?
Absolument. Ouais. Le manga, il faut savoir qu'au Japon, c'est comme une commodité.
Oui,
on
oui.
en trouve aux toilettes là-bas, on les prend, on les jette. En France, c'est pas pareil, exactement, ouais. on les collectionne, c'est un peu plus...
Ça, c'est notre spécificité, exactement. Française peut-être. Hein.
Absolument, on est le deuxième pays consommateur de manga au monde.
C'est dingue, hein, ça. Marine, petite question sur l'industrialisation de votre roue. Vous la vendez donc ce week-end au marché de Noël à Station F. Où est-ce que vous la fabriquez, cette roue ?
On la fabrique en Asie. Pour l'instant, on est dépendant encore de pas mal au niveau des composants qui sont à l'intérieur de pas mal de fournisseurs en Asie. On est en train de réfléchir, par contre, et on est en train de discuter avec des entreprises en France pour l'assemblage. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait arriver bientôt. Et voilà.
Et comment vous vivez cette pénurie à la fois de composants, mais aussi de transport, etc. J'imagine que si tout ça vient d'Asie, vous devez être aussi impacté, non ?
On est impacté, on l'est probablement moins que les vélos électriques qui parfois nécessitent 6 à 8 mois d'attente. Déjà parce qu'on a fait des stocks bien en amont, parce qu'en plus on a quand même moins de composants au global. Mmh. On est plus impacté sur les transports, mais voilà, on s'organise de manière à ce que ça nous touche le moins possible et qu'on arrive à répondre à toutes les demandes pour les prochains mois.
Et dernière petite question, vous vendez cette roue, T-Bike, depuis quand ?
Depuis 2 ans.
Depuis 2 ans, ouais. D'accord.
On la commercialise sur notre site et on a plus de 60 magasins partenaires dans toute la France, principalement des magasins de cycle qui revendent la roue. On a commencé aussi à travailler avec la Fnac, Darty et Decathlon depuis peu. Donc on commence à vendre aussi sur le site et en magasin Decathlon.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Marine Bilis, donc, cofondatrice de T-Bike, et Nicolas Dévé, cofondateur de Bubble. Vous serez donc présents au marché de Noël de Station F. Ce sera ce week-end et c'est rare, hein, parce que Station F, qui est aussi un bâtiment magnifique, sera ouvert au grand public. Et puis après, vous pourrez aller manger des pâtes ou une pizza au restaurant qui est à côté.
Hein,
qui est pas
mal du tout.
La Felicita, voilà. On ne fait pas de la pub, hein, c'est une réalité. Très bonne soirée, ce Tech & Co est terminé. Merci de nous avoir suivis à la radio, à la télé. Demain, nous serons là, mais nous serons depuis Lyon, puisqu'on vous réserve, vous le savez, une journée spéciale demain sur BFM Business, de la matinale jusqu'à Tech & Co. Toutes vos émissions seront réalisées depuis Lyon. Et il me tarde de vous retrouver depuis cette belle ville. Bonne soirée et à demain pour Tech & Co.